Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
Les croisades, une occasion manquée de convergence. C'est, disions-nous la dernière fois, la quatrième croisade qui consommera la rupture que les anathèmes de 1054 n'avaient encore fait qu'esquisser entre Orient et Occident. Il nous faut donc aujourd'hui situer cette quatrième croisade dans le contexte des croisades en général. Avant que n'existe le mot « croisade », on parlait du voyage de Jérusalem, vu comme un pèlerinage et non comme une expédition militaire. Et le pèlerinage lui-même était vu comme une préfiguration de la marche de l'Église vers la Jérusalem céleste. Les croisades, en leur début, plus qu'une guerre de conquête à proprement parler, ont plutôt été la dimension militaire qu'a prise le pèlerinage en Terre Sainte, pour des raisons complexes qu'il nous faut tenter de démêler. Il faudra en tout cas attendre le XVIIIe siècle, et Voltaire en particulier dans son essai sur les mœurs, pour que les croisades soient présentées comme des manifestations de fanatisme, ce qu'elles n'ont jamais été. Dans les textes du Moyen-Âge, le croisé est avant tout un pèlerin qui entreprend ce voyage long et périlleux par dévotion personnelle, parfois aussi pour s'acquitter d'une pénitence. Jusqu'à la fin du Xe siècle, les dangers auxquels s'exposent les pèlerins viennent des bandits des grands chemins, mais rarement des autorités musulmanes. La dynastie musulmane des Fatimides, fondée en 909, laisse au contraire toute liberté de pérégriner en exigeant simplement l'acquittement d'une redevance. Mais ce statu quo pacifique va être remis en question par le sixième calife Fatimide, nommé Al-Hakim, qui instaure un régime de terreur. Il s'en prend aux Juifs et aux chrétiens, leur imposant le port d'un signe vestimentaire distinctif, interdisant la procession des rameaux à Jérusalem et détruisant de nombreux monastères et églises, dont l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, qui sera détruite en 1009. Il se trouve que cette persécution, avec les destructions qu'elle entraîne, correspond à la préparation du millénaire de la mort et de la résurrection de Jésus, célébré en 1033, de sorte que des foules de plus en plus nombreuses convergent vers Jérusalem. Les nobles qui s'y rendent entraînent souvent derrière eux des centaines de personnes. Pour ces expéditions, Constantinople est presque un passage obligé. Les Byzantins, déjà mal disposés à l'égard des Latins, regardent passer avec une pointe de mépris et d'appréhension ces groupes qu'ils appellent des Francs ou parfois des Celtes. Seuls les Normands, qui ont participé à la reconquête de l'Espagne, jouissent d'un statut spécial de mercenaires occasionnels. Mais l'empereur byzantin, de son côté, voit aussi le profit qu'il peut tirer de ces passages, alors qu'il est menacé par des conquêtes turques en Anatolie. L'empereur Michel VII tente alors un rapprochement avec le pape Grégoire VII, et pour obtenir de l'Occident une aide militaire, il insiste sur les malheurs des chrétiens d'Asie mineure et sur les persécutions de Terre Sainte, sujet auquel il sait que les Latins sont très sensibles. Grégoire VII va donc répondre, et il va répondre au-delà de toute espérance, appelant à se rendre au secours de l'Empire chrétien, où les païens, je cite, « ont dévasté le pays presque jusqu'à Constantinople et massacré comme des moutons des milliers de chrétiens ». C'est ainsi que l'appel à la défense contre les Turcs va se transformer en Occident à l'appel en une guerre de libération des chrétiens persécutés et se concrétiser dans le projet d'une expédition militaire pour porter secours à l'ensemble des chrétiens d'Orient. Après une période de refroidissement des relations entre Rome et Byzance, les négociations vont reprendre en 1089 entre le pape Urbain II et l'empereur Alexis Ier Comnène. L'expédition militaire va alors commencer à s'organiser. Le commandement suprême de l'armée de volontaires est confié à Adhémar, évêque du Puy. Les biens des croisés absents sont placés sous la protection pontificale. Les croisés reçoivent la promesse que s'ils tombent au combat, tous leurs péchés leur seront remis. Mais la grande date, c'est 1095. Cette année-là, le pape français Urbain II, le même qui consacrera la basilique Saint-Sernin à Toulouse, convoque à Clermont un concile à l'issue duquel il lance un vibrant appel à la croisade. L'appel est relayé par des personnalités prophétiques, comme le célèbre Pierre l'Ermite, et reçoit un accueil enthousiaste. Les premiers volontaires cousent entre leurs épaules une croix de tissu qui les fait appeler, en latin, « Cruce signati », marqué de la croix, ou en français « croisé ». À l'époque, à l'été de 1096, ils partent, accompagnés d'environ 15 000 pèlerins. L'arrivée de cette foule hétéroclite dans les territoires de l'Empire byzantin pose aux autorités impériales de sérieux problèmes de ravitaillement et aussi de surveillance. Les pèlerins sont la plupart du temps dépourvus de ressources et donc portés au pillage. Quant aux chefs, certains d'entre eux, comme le Normand Bohémond, étaient déjà venus quelques années plus tôt, mais ils étaient venus en envahisseurs et non en croisés. Ils s'engagent cependant en principe à restituer à l'empereur les terres qui lui appartenaient avant l'invasion turque et à demeurer ses vassaux, et malgré les réticences de certains, comme le célèbre Godefroy de Bouillon, le principe d'allégeance fonctionne assez bien au début. La ville de Nicée est reconquise, la porte de l'Anatolie est ouverte, les croisés arrivent en Arménie, où ils sont bien accueillis, mais, après avoir pris Antioche en 1098, ils ne restituent pas la ville à Byzance et ils font de même le comté d'Édesse, premier état croisé de la région. C'est la première faille sérieuse dans l'alliance entre croisés et byzantins. Quant aux musulmans, ils sont divisés entre deux califats hostiles, ce qui va permettre aux chrétiens de progresser vers Jérusalem sans rencontrer de résistance sérieuse. Voici le récit de la prise de la ville. Une série de jeûnes purificateurs, une procession autour de la ville et au Mont des Oliviers rendent à la croisade son sens de pèlerinage et à l'armée son esprit d'offensive. Après un assaut difficile de 2 jours, la ville est prise le 15 juillet 1099. Après 3 années de privation, le déchaînement des instincts dans l'exaltation religieuse aboutit à un massacre. Accompagné de plus de violence que ne l'avaient été les persécutions d'Al-Hakim, la prise de Jérusalem va devenir pour l'islam le signe de l'intolérance chrétienne. Les chefs croisés, préférant Godefroy de Bouillon à Raymond de Toulouse, l'élisent alors avoué du Saint-Sépulcre. Il va régner avec seulement 300 chevaliers et 2000 fantassins sur un territoire long de 700 km et très difficile à défendre avec si peu de moyens. Le successeur de Godefroy de Bouillon, son frère Baudouin, se fait couronner roi de Jérusalem à Bethléem à la Noël de l'an 1100. Et c'est sous son règne que le royaume franc de Jérusalem va connaître l'apogée de son expansion. Les musulmans reprendront l'initiative à partir de 1125 et reprendront Édesse en 1145. La nouvelle de la prise d'Édesse provoquera le départ de la deuxième croisade. Mais les différends avec Byzance, ajoutés aux mésententes des croisés entre eux, feront de cette croisade un cuisant échec. Dans la suite, Jérusalem reste l'allié de Byzance, mais un chef militaire redoutable, Salah ad-Din, Saladin en français, va reprendre l'offensive devant un roi de Jérusalem courageux mais lépreux. Saladin réussit à isoler les Francs en faisant alliance contre eux avec d'autres chefs musulmans et avec Byzance, qui est en posture défensive et ne veut plus secourir ses anciens alliés latins, les laissant sans protection du côté du nord. Les dissensions intérieures du royaume franc feront le reste, et un bandit de grand chemin, Renaud de Châtillon, fournira le prétexte pour l'assaut final. La défaite des cornes de Hattin en Galilée en 1187 scellera la fin du royaume de Jérusalem. Ce désastre va déclencher une troisième croisade, avec à sa tête l'empereur Frédéric Barberousse. Cette fois, malgré des négociations préalables, La traversée de l'Empire byzantin donnera lieu à des hostilités entre chrétiens, sans rapport avec les croisades précédentes. Mais Frédéric Barberousse périt noyé et la croisade tourne court. On ne parvient qu'à prendre Acre au terme d'un siège de 2 ans. Le royaume franc demeure cependant, mais il est réduit à une franche côtière autour de la ville d'Acre. Ce statu quo se prolongera encore pendant près d'un siècle. Nous arrivons maintenant au moment le plus consternant, celui de la quatrième croisade, qu'on a appelée fort justement la croisade détournée. La croisade, devenue une sorte d'institution, connaît en effet de plus en plus la tentation d'être utilisée contre des ennemis plus accessibles que ceux de Terre Sainte. Et la cupidité des chefs va faire le reste. L'empereur germanique Henri VI, à la tête de la nouvelle croisade, commence par demander à Byzance le versement d'un tribut annuel, pour lequel l'empereur Alexis III Ange est contraint d'établir un impôt extraordinaire et de dépouiller les tombes impériales. Alors que le pape use de son autorité pour empêcher le détournement de la croisade en direction de Constantinople, la mort de l'empereur Henri VI va disperser l'expédition. Mais c'est alors que la quatrième croisade rebondit. En effet, le pape Innocent III a l'idée d'une croisade d'inspiration purement pontificale et il envoie dans ce but des plénipotentiaires à Venise pour conclure un traité militaire avec les Vénitiens. Mais l'arrivée auprès des croisés du jeune prétendant byzantin Alexis Ange va changer la donne. Ce prétendant demande aux croisés de rétablir sur le trône son père, Isaac II, qui a été renversé, et il promet en échange des versements élevés, la contribution de l'Empire byzantin à la poursuite de la croisade et l'union des églises. Derrière ces promesses, c'est le détournement redouté qui se profile. Le légat du pape en est parfaitement conscient et il s'oppose de toutes ses forces à ce projet, mais en vain. La croisade commence par prendre l'île de Corfou et met le siège devant Constantinople en juin 1203, imposant sous la menace la restauration de l'empereur Isaac II, qui doit régner avec comme co-empereur son fils Alexis Ange. Nous verrons la prochaine fois ce qu'il en adviendra.